Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier, le mime Marceau que j'ai en face de moi, que je suis accompagné pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Je te mimerai mon salut.
Ouais. Je vous rappelle, pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, que Thérapie Pop cette saison, c'est un nouveau format raccourci pour plus d'efficacité et d'accessibilité. C'est donc en 12 minutes que nous allons explorer un album sorti en 2002 et qui... comme son titre, Songs for the Deaf, chanson pour les sourds, donc pour nos amis non anglophones, le laisser présager, a fait grand bruit. Le groupe qu'il a pondu, que l'on peut qualifier de super groupe, tant il rassemble des personnages cultes de la scène indépendante, s'appelle Queens of the Stone Age. D'où est-ce qu'ils nous viennent, Gauthier ?
Alors, ils viennent d'un endroit qui est très important pour ce que sera le son des Queens of the Stone Age, Palm Desert en Californie, comme le nom l'indique, c'est lié à un désert non loin de là. Comme beaucoup d'artistes, ils sont influencés par le décor, entre guillemets, qu'ils ont autour d'eux, et on le verra, le son des Queens of the Stone Age, c'est abrasif, entre guillemets, comme le sable d'un désert. Et c'est un groupe qui est tenu, construit autour d'un homme gigantesque, roux, qui trimballe son immense stature, Josh Homme, chanteur, guitariste de groupe, un musicien fabuleux quand tu lui donnes une guitare entre les mains, tant il arrive à composer, vous l'entendrez tout à l'heure, mais des sonorités extrêmement particulières. C'est un vrai musicien, un vrai joueur de guitare.
On va l'entendre, et ce bon Josh Homme, hélas, on ne le connaît pas que pour ça, Gauthier.
On le connaît même plus, malheureusement, pour être également le cofondateur d'un autre groupe qui s'appelle Cuse, bon, peu connu, mais également des Eagles of Death Metal en 98, où il jouait là de la batterie et des basses, parce que oui, effectivement, tu peux lui aussi lui donner une 4 cordes ou des fûts, il se démerde, Josh Homme, c'est un homme multifonction. Ouais. Les Eagles of Death Metal que vous connaissez notamment pour avoir été le groupe qui jouait le jour des attentats du Bataclan, dans le Bataclan, donc tristement célèbre malheureusement, mais qui est un groupe qui peut être intéressant.
Oui, mais Josh Homme n'a pas que fondé ces deux très chouettes groupes, il a également collaboré avec la quasi-totalité de la scène indé américaine.
Ouais, et pas qu'indé, c'est improbable. C'est un mec qui a bossé avec les Foo Fighters,
oui,
on y reviendra.
Ouais,
PJ Harvey, Mark Lanegan, on y reviendra. Trent Reznor, le gars qui avait derrière Nancy Snail, excusez-moi. Uncle, Prima Scream, Run the Jewels, des rappeurs. Les Strokes, moins indé déjà. Lady Gaga, oui, parce qu'on le retrouve chez Lady Gaga. Et c'est aussi Josh Homme, le gars qui va révolutionner le son des Arctic Monkeys. Lors de leur troisième album, les Arctic Monkeys, c'est deux premiers albums très rock, très anglais.
Ouais.
Un troisième album, Humbug, sauf erreur de ma part.
C'est ça,
voilà,
tout à fait.
Avec un son extrêmement particulier. Et ben, à la baguette, c'est Josh Homme qui va montrer à Alex Turner et à sa bande que ben, il n'y a pas que le son anglais, il y a d'autres sons sur Terre. Et ben, on le doit à ce gars, la révolution des Arctic Monkeys.
Et ce nom de Queens of the Stone Age, on revient sur eux parce que c'est quand même le sujet de ce jour. Un nom pour le moins loufoque, tu peux nous dire d'où est-ce qu'il vient ?
Alors une explication tout aussi loufoque, et donc je citerai Josh Homme pour la justifier. Je le cite, hein. Les rois, ça aurait été trop moche, les rois de l'âge de pierre portent des armures et des haches et ils luttent. Les reines de l'âge de pierre, elles traînent avec leurs copines des rois de l'âge de pierre quand ils sont en train de lutter. Rock, c'était déjà assez lourd pour les garçons, il fallait un peu de douceur de fille. Ben donc voilà, j'en suis arrivé à me dire que ce qui était logique, c'était Queen of the Stone Age, c'était plus festif que Kings of the Stone Age. C'est une explication comme une autre. je renvoie notamment notre émission sur Echo and the Bunnymen.
Oui,
c'est
vrai.
Il y a parfois des groupes de rock qui créent des noms. Bon,
et pourquoi pas ?
Théo, c'est toujours plus original que le groupe qui s'appelait The. Puisque tous les groupes de rock s'appellent The quelque chose. Il y avait des mecs qui avaient fait The.
Tu as raison.
Bon, ben pourquoi pas.
Et donc, Songs for the Deaf, sorti en 2002, c'est le troisième album du groupe. Il y en a donc eu deux auparavant.
Oui, le premier album, un string, pris de photos de devant, remarqué, mais peu intéressant. Un second album très remarquable et pas forcément remarqué, Ratted Hair, sauf erreur de ma part, il s'appelait.
Tout à fait.
Et le troisième album, il s'agissait justement de déboucher les oreilles des derniers sourds qui n'avaient pas constaté que les Queen of the Stone Age avaient un message à faire passer. Ça tombe bien, ils vont le faire passer fort, très fort.
Ben on va se l'écouter.
Oh.
On s'écoute Nobody Knows.
Non, No One.
No One Knows.
C'est quasiment la même...
J'étais pas loin.
Ouais, pas loin.
No One Knows.
guitariste, Théo, mais quel guitariste.
Et donc on a été sur No One Knows.
Oui, absolument.
Des Queens of Stone Age. Et il y a un style qui colle à la peau de Josh Homme, dont on vous parlait, donc le leader de ce groupe, c'est le stoner. Tu nous rappelles rapidement ce que c'est que le stoner, Gauthier?
C'est plus qu'il ne lui colle à la peau. Josh Homme est le créateur, ouais. Le pape du stoner, c'est lui le stoner. Le stoner, c'est une sorte de fusion entre la musique rock et la musique psychédélique avec des tons quasiment de métal. En gros, la recette classique pour faire du stoner, c'est quoi? Vous prenez une production un peu rétro, vous entendez les guitares sont saturées, etc. Vous prenez un amour immodéré du riff de guitare, vous entendez bien que toute la chanson est construite autour d'un riff très particulier.
Ouais, vous qui prenez... est très bon, soit dit en passant.
Exceptionnel. Vous prenez une voix mélodique, parce que c'est pas parce qu'on met du rétro, c'est pas parce qu'on met un gros riff qu'il faut pas chanter de façon très mélodique. Il y a une façon de chanter de Josh Homme qui est assez étonnante. Mmh. Voilà. Et vous calquez dessus une basse lourde, hein. Il faut que ça cogne, il faut que ça soit quasiment métalleux, la basse. Hein. Et un tempo qui, même si dans les solos il s'excite, nos amis, est en fait relativement lent, voire moyen. Ça va pas forcément extrêmement vite, c'est assez cadencé, mais dans une espèce de faux rythme un peu. Mmh. Et c'est le stoner, il en est le créateur.
On rappelle qu'à la batterie, c'est Dave Grohl, qui était le batteur de Nirvana.
Ouais. Et des Foo Fighters. Que Josh Homme a produit. Ouais.
Et cet album, donc j'y viens, de les chansons pour les sourds, on retrouve qui dessus?
Eh bien, on y retrouve justement une sorte de Avengers de la musique rock. Donc Josh Homme, je vous dis, vous le connaissez pas forcément, mais il a travaillé sur beaucoup d'albums que vous écoutez actuellement. Nick Oliveri, un bassiste dont on pourrait vous faire une émission entière. Mark Lanegan, un guitariste-chanteur dont on pourrait vous faire une émission entière. Ouais. Et Dave Grohl. Et s'il faut s'arrêter sur l'un d'entre eux, c'est peut-être Dave Grohl, tant sa participation sur cet album est exceptionnellement fondamental. Dave Grohl, il est considéré comme l'un des plus grands batteurs de tous les temps, et la contribution qu'il apporte dans cet album est phénoménale. Les sections rythmiques, et il y a même des solos de batterie, rendent cet album parfaitement remarquable et très atypique dans son style.
Et donc, comme la qualité de l'album le laissait présager, c'est un carton.
C'est un carton acclamé par la critique, quoique un album monumentalement inégalé et inégalable surtout, et inégal, pardon, je vais y arriver mon cher Théo à trouver mon bon inégal, et j'adore la critique qu'en avait fait le magazine Pitchfork, c'est pour ça que je ne peux m'empêcher de vous la lire. Song for the Deaf, oscille constamment entre des sommets vertigineux et des creux abrutissants, ce qui en fait une véritable affaire de hasard. Mais même s'il ne peut pas tout avoir, les gars du groupe offrent une véritable vitrine de panache teinté de métal et d'écriture stellaire comme on pourrait l'espérer d'un groupe étiqueté stoner rock. De plus, si tout l'album était aussi fort que les trois premiers morceaux qui sont dantesques, ça c'est moi qui vous le rajoute, il vous brûlerait littéralement vif. Dans l'état actuel des choses, les reines de l'âge de pierre, les Queen of the Stone Age, se contentent d'être une tentative de meurtre. Et c'est déjà pas mal. J'adore cette critique.
Ouais, c'est
et c'est vrai que si je jouais tout l'album comme c'est les trois premières chansons, tu passes pas la cinquième.
Et si tu devais garder un ou deux morceaux après de longues tergiversations?
Alors trois. No One Snow que vous avez écouté. Mmh. Go With The Flow qui est une chanson hallucinante. Et la toute première, You Think I Hate Worth A Dollar But I Feel Like A Millionaire, que moi je ne pouvais pas écouter quand j'étais petit parce qu'elle était bloquée, tu sais, par les antigravures quand on était jeune.
Ah bon?
Ouais, avant il y avait des CD qui avaient une protection pour pas que tu les graves.
Ouais, ouais.
Et ça bloquait la première chanson dans certaines Chenifi. Enfin, anecdote quoi.
Je me souviens pas de ça.
Et chanson, okay. J'ai poncé l'album pendant des années jusqu'au jour où j'ai enfin pu écouter la première quand j'ai eu la bonne Chenifi qu'elle est bien, qui est une chanson invraisemblable de puissance, de vitesse vertigineuse, etc. Et allez écouter, sinon, non pas A Song for the Deaf, mais A Song for the Dead. So the Dead,
for
donc,
the dead.
Une langue pour ouais. Les morts. Vous avez Dave Grohl qui livre l'une des plus belles partitions de batterie de l'histoire du rock, au point, encore une fois, qu'on lui laisse même faire un solo, ce qui est très rare dans une chanson ouais. De rock.
On est d'accord. Voilà. L'émission touche à sa fin, chers auditeurs. Vous l'aurez compris, Songs for the Deaf des Queen of Stone Age mérite sa place dans la discographie idéale, de tout amateur de bon son. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie. On restera aux États-Unis, mais on remontera le temps jusqu'en 65 pour partir à la rencontre de Sonny & Cher et de leur premier album. Je vous rappelle enfin que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence et des radios partenaires, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
Salut.
Ciao.